7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, journée internationale des droits de l'enfant, 25 ans après la signature de la Convention des droits de l'enfant, il n'est pas inutile de s'interroger. 194 pays ont signé cet engagement, sauf les États-Unis, la Somalie. Alors pourquoi? Pour les pays signataires, quel progrès? Les États peuvent-ils, veulent-ils réellement protéger les enfants? Nous allons en parler avec le Bureau international catholique de l'enfance. Bonjour Alessandra. Sandra Aoula,
bonjour.
Vous êtes secrétaire générale du BICE. Et puis, il y a cette enquête sidérante en France menée par deux journalistes sur l'aide sociale à l'enfance et les placements d'enfants en foyer ou en famille d'accueil. Bonjour Alexandra Riguet.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur de nombreux documentaires. Vous avez enquêté pendant plus de 2 ans pour votre livre « Enfants en souffrance, la honte ». 7,5 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour la protection de l'enfance en France, mais avec bien peu de contrôle des pouvoirs publics et d'intérêt pour l'enfant. Vous allez nous expliquer pourquoi et surtout quelles conséquences dramatiques pour les enfants et pour la société tout entière en France, parce que finalement un pays qui néglige la protection des enfants ne peut pas aller bien loin. Et chez vous, les voisins et les voisines, quels sont les progrès réalisés pour les enfants? La protection des enfants intéresse-t-elle vraiment les décideurs dans votre pays? Appelez-nous tout de suite si vous êtes concerné par le sujet. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis des messages parvenus sur les réseaux sociaux. Colin nous dit qu'au Gabon, les enfants sont charcutés, c'est son mot, et le pouvoir ne fait rien pour stopper cela. Je me demande bien ce que font ces organismes internationaux luttant pour la cause de l'enfance. Sont-ils de simples observateurs? Pourquoi ne sanctionnent-ils pas l'État gabonais face à ce fléau des crimes rituels? Voilà, c'est un sujet qui est largement médiatisé sur RFI, dans la presse gabonaise. Alors, les observateurs internationaux, bah, vous en faites partie, le Bureau international National catholique de l'enfance, Alessandra Aoula.
Oui, le BICE est une ONG, une organisation non gouvernementale. Donc, nous sommes une organisation internationale, mais nous ne sommes pas les Nations Unies. Alors, nous intervenons auprès des Nations Unies, justement, pour rappeler des tristes réalités. Mmh. Exactement, comme l'auditeur vient de dire, au Gabon et dans d'autres pays, malheureusement. Donc, nous faisons justement du plaidoyer pour que les États qui ont ratifié la Convention la mettent en œuvre. Mmh. Parce qu'évidemment, ratifier un instrument, c'est important, c'est les premiers pas, mais après, il faut harmoniser sa législation et mettre en œuvre
des lois et surtout les faire appliquer dans
tout
son pays. Par exemple, les Mousquetaires de Kinshasa, c'est une association qui nous écrit souvent sur notre fil Facebook, nous dit qu'en RDC, une loi de protection de l'enfant a été adoptée en 2009-2010.
Oui, les codes, oui.
Mais son application est défaillante. Par exemple, cette loi stipule, on est allé vérifier, que toute relation, même consentante, relation sexuelle, hein, même consentante avec un mineur, est maintenant sanctionnée par la justice pénale. C'est oui. plutôt bien, mais il nous dit par exemple qu'il n'existe pas de réelle institution de placement des enfants, les mesures d'éducation pour les accompagner sont inexistantes, et poursuivent les Mousquetaires, des lueurs d'espoir tout de même à travers le travail des ONG et même quelques petits signes du gouvernement qui tente avec certains programmes comme les cours d'éducation morale ou de la citoyenneté d'apporter aux jeunes de nouvelles notions pour les préparer à leur avenir, mais le bilan est assez mitigé. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Tout à fait. En RDC, c'est sûr qu'il y a des défaillances graves de l'État. Nous allons projeter justement demain un documentaire examen d'État sur le système éducatif en RDC, et on voit bien toutes les difficultés des enseignants qui ne sont pas payés, qui ne sont pas formés, des élèves qui n'ont pas accès à l'éducation, etc. Et que donc, qui rend aussi très très compliqué mettre en œuvre ces droits de l'enfant dans ce pays qui est aussi dans des zones, notamment à l'Est, un conflit actif ou latent, mais toujours des situations aussi d'extrême précarité.
Sans parler
pour les
des enfants qui sont jetés à la rue par leur famille elle-même à
tout
cause
à
de certaines et croyances sur la vie dure.
Les enfants soldats, à l'Est, au pays, continue à être une triste réalité.
Un autre coup de projecteur, cette fois-ci au Tchad, par Mounir, qui est à N'Djamena. Il nous dit, dans les discours politiques, ah oui, ça, on ne cesse de répéter que l'enfant est le fer de lance ou l'avenir de la nation. Malheureusement, la condition de l'enfant tchadien n'est guère reluisante. Le fléau du VIH-SIDA a fait d'eux des orphelins sans soutien, ou lorsqu'ils perdent leurs parents, ils se trouvent dans la misère la plus totale et doivent renoncer à leur scolarisation et gagner parfois la rue. Voilà, on a envie de vous entendre maintenant de vive voix, surtout si vous êtes concerné par le sujet, si vous êtes éducateur spécialisé, que vous œuvrez pour la protection de l'enfance. 33 1 84 22 71 71. Alors, Alexandra Aoula, du BICE, 25 ans après la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'est-ce qui a vraiment changé ?
A changé le fait que l'enfant aujourd'hui est sujet des droits, chose qu'il y a 25 ans n'était pas le cas. L'enfant est titulaire des droits et la Convention lui accorde aussi une reconnaissance spéciale à travers son article 3 qui parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, c'est les nouveaux principes que cet instrument introduit, mais cet instrument en introduit aussi et en souligne un autre qui, à notre avis, est très important, c'est celui du droit de l'enfant à être écouté. Alors, ce qu'on peut appeler la participation de l'enfant, mais ce qui veut dire que l'enfant, selon son âge, évidemment, son degré de développement et de maturité, doit prendre la parole et il faut tenir compte de sa parole. Donc, une écoute active de ce que l'enfant dit, un enfant qui est protagoniste aussi donc de son développement et dont l'adulte doit prendre en compte. Et ça, c'est quelque chose que, évidemment, c'est une nouveauté de la Convention qui encore aujourd'hui, évidemment, pose des difficultés à comment on écoute, comment on recueille la parole de l'enfant. Parce que il y a des situations aussi délicates d'enfants maltraités, d'enfants qui ont été abusés. Comment on veut éviter aussi que l'enfant soit revictimisé en écoutant sa parole. Mais quand même, ça reste évidemment un élément porteur de cette convention.
Et en même temps, quand on vous écoute sur ce que dit la Convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant est une personne et n'est plus la propriété de sa famille. Comment se fait-il qu'un pays aussi riche et développé que les États-Unis n'ait pas réellement signé, ratifié la Convention des droits de l'enfant ?
Alors, évidemment, cela fait tâche qu'un pays comme les États-Unis n'ait pas ratifié la Convention. En même temps, il faut aussi dire que les États-Unis ont ratifié le pacte sur la vente d'enfants, prostitution et pornographie mettant en scène des enfants et les pactes sur les enfants impliqués dans les conflits armés. Alors, ce sont deux instruments qui complémentent la Convention. Donc, les États-Unis, quand même, présentent des rapports au comité des droits de l'enfant.
Sinon, ils bloquent sur quoi ? Alors, finalement, qu'est-ce qui les dérange ?
Les États-Unis, alors ça les dérange le fait de, vous savez qu'il y a la question de la peine de mort, qui est malheureusement
et la condamnation à perpétuité qui est toujours autorisée pour un enfant de moins de 18 ans aux États-Unis.
Tout à fait, y compris quand l'enfant, donc quand un mineur commet donc un crime, donc ça évidemment c'est un sujet extrêmement controversé, difficile à faire passer aux États-Unis et il y a des lobbying aux États-Unis extrêmement conservateurs quand même qui continuent à craindre au fond qu'on donne des droits aux enfants.
Notamment la phrase dans la convention qui dit les droits de l'enfant à la liberté de penser, de conscience et de religion.
Pas que ça. C'est vraiment une sorte de dire voilà on octroie des droits à des enfants qui donc vont entre guillemets échapper du contrôle. De leurs parents. Tout à fait, il y a des lobbying, y compris d'ONG, qui vont dans le sens de freiner la volonté politique qui s'était manifestée de ratifier cet instrument.
Dans quel pays aujourd'hui il y a une vraie volonté politique d'améliorer vraiment la protection de l'enfance ?
Les déclarations des pays, évidemment, vont toutes dans ce sens. Il n'y a aucun pays qui va dire qu'il ne veut pas protéger les droits de ses enfants.
Dans les faits,
évidemment.
Quels sont les pays qui ont vraiment tenté des progrès notables?
Tout à fait. On voit que, notamment, dans la région Amérique latine, il y a eu des progrès considérables ces dernières 25 ans, tant au niveau des pays, et pas seulement, en adoptant des codes, en adoptant des plans nationaux, qui, ça, au fond, c'est important, mais c'est facile, si on peut dire comme ça. Mais le travail qui se fait en lien avec les autorités publiques en général sur le continent latino-américain, avec pour nous les ONG, est quand même porteur des résultats.
Au Brésil, sur la scolarisation massive,
au Brésil,
etc.
Mais aussi au Chili, aussi au Pérou, en Argentine, en Uruguay. L'Uruguay est toujours, y compris au niveau international, les pays qui portent la résolution sur les droits de l'enfant. Donc ce sont des pays avec qui on collabore bien et qui vraiment ont à cœur que les changements soient réels.
Montre un intérêt politique là-dessus.
Tout à fait, oui.
33 1 84 22 71 71, c'est notre numéro au standard. Appelez-nous pour nous dire quelle est la situation dans votre pays pour la protection des enfants, vos points de vue, vos témoignages si vous travaillez directement auprès des enfants.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Retour en France. Écoutez maintenant le témoignage de Lies. Lies a 20 ans et jusqu'à 18 ans, il a été confié à ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Son histoire, ou plutôt son parcours chaotique, est loin d'être un cas isolé. Aujourd'hui, Lies est travailleur social. Il témoigne pour les autres enfants au micro d'Alice Milo.
Ma mère était enceinte, donc elle était déjà diagnostiquée avec des troubles psychiatriques. Et à l'accouchement, donc la décision a été prise de me retirer de cette personne. Et là, j'ai été placé donc à la pouponnière, ce qui est une sorte de foyer pour bébé, on va dire, jusqu'à l'âge de mes 18 mois. Et à mes 18 mois, j'ai intégré donc ma première famille d'accueil. Cette première famille d'accueil, je l'ai aimée. Je l'ai adorée, je l'ai reconnue comme étant ma première mère.
Émilie.
Exactement, Émilie. Par la suite, à l'âge de mes 4 ans, Émilie avait pris la décision de partir dans le sud. Elle voulait m'emmener dans le sud avec elle. Donc elle a fait la demande à l'ASE. L'ASE a débouté sa demande. Cette décision a été motivée par le fait que ma mère, qui est ma mère biologique, était toujours en région parisienne. Donc le lien pour eux devait automatiquement être maintenu. De ce fait, je ne pouvais pas m'éloigner de son domicile. Une mère que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue.
Il vivait dans l'idée que peut-être qu'il ne fallait pas vous couper comme maman de votre mère parce que peut-être un jour ça irait mieux.
Exactement, c'est ça. On n'est pas dans une démarche où on va couper encore les liens biologiques. On est dans une démarche où justement on va tout faire pour les conserver, essayer de les rabibocher, de les recoller, d'améliorer, etc.
Et ça c'est un fantasme.
Mais c'est bien sûr un fantasme. Ma mère est atteinte de pathologie psy, elle est sous tutelle, incapable de s'occuper d'elle-même. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle s'occupe de moi avant mes 18 ans? Ça aurait été de toute façon, quoi qu'il arrive, très compliqué. Et on savait que mon placement allait durer 18 ans. Enfin, je pense que personne ne se voilait la face sur ça à l'époque. Voilà, tout le monde le savait que, quoi qu'il arrivait, j'allais dépendre d'une institution jusqu'à ma majorité.
Ça aurait été plus simple si vous n'aviez plus une mère.
Ah, mais ça aurait été carrément plus simple parce que là, j'aurais pu être adoptée directement.
Pourquoi on met ce lien naturel au-dessus de tout ?
Mais ça, c'est une question vraiment de... C'est les mentalités qui sont comme ça, c'est dans les mœurs, ça s'est inscrit comme ça. On est vraiment sur une mentalité familialiste, pro-familialiste. Donc la décision a été prise de me retirer d'Emilie, et là je pars du coup dans une deuxième famille d'accueil.
Dans votre livre, vous l'appelez la Dame Blonde, elle vous enfermait dans une pièce, c'est ça ?
Exactement. Pendant 2 ans, cette personne ne m'a pas scolarisé, alors que c'est l'âge où on est censé aller à la maternelle. Et aucun contrôle n'a été fait à cette époque. C'est-à-dire que cette personne aurait pu exercer comme ça pendant des années sans que personne ne se rende compte.
Elle ne vous a pris chez elle que pour l'argent.
Sa motivation principale, c'était l'argent, bien sûr. Alors, et puis moi, ce qui m'inquiète énormément en ce moment, c'est avec la crise économique, on a de plus en plus de personnes qui se tournent vers ce type de profession quand elles se font licencier ou quand elles perdent leur emploi ou quand elles n'en trouvent pas. Parce que c'est un emploi, hein, elles sont salariées. Donc non seulement elles ont un salaire, et en plus elles touchent des prestations pour tout ce qui concerne la nourriture, la vêture, l'hébergement, tous les frais occasionnés par un enfant placé. Donc c'est plutôt bien payé.
Vous partez dans une troisième famille d'accueil, vous devenez un enfant dépendant, en fait, intoxiqué aux médicaments.
En fait, je suis arrivé dans cette famille d'accueil, ce qui est complètement logique, j'étais cassé, déjà psychiquement et physiquement. Et la seule solution qu'elle a trouvée, ça a été en effet de me shooter, parce que c'est le terme, hein, aux médicaments.
Donc c'était des antidépresseurs ?
Du Valium, du Tertian, du Risperdal. Moi, quand je travaillais au SAMU social, on donnait du Valium aux personnes qui souffraient d'alcoolisme, quand même.
Et vous avez eu ça à 6 ans ?
Exactement. Tout la complicité de l'institution.
Pour que vous restiez calme,
il fallait que je reste calme. Puis moi, j'étais agité. En plus, j'étais super agité. J'étais très turbulent. Mais ce qui pouvait complètement s'expliquer par rapport à ce que j'avais pu vivre avant. Donc la préparation à l'accueil d'un enfant en difficulté, je pense que c'était absolument pas d'actualité pour elle.
Vous sortez de chez cette troisième famille d'accueil assez détruite. Hein, c'est démoli. Oui. Vous racontez dans votre livre que du coup, vous êtes en surpoids. Vous avez perdu confiance en vous. Après 3 familles d'accueil, vous partez finalement dans un foyer. Donc là, c'est la découverte du foyer que vous décrivez un peu comme une prison pour enfants. En fait.
J'avais 10 ans, j'étais un peu bouffi, boule, avec plein de peluches. Et quand j'arrive dans ce foyer, c'est vrai que déjà, c'est la première fois que je vis en collectivité. Et rien que ça, pour moi, ça a été déjà très, très, très violent, très maltraitant. Et j'ai ressenti vraiment comme la jungle, avec de la violence de la part à la fois des professionnels, enfin des soi-disant professionnels, et aussi de la part des enfants.
Vous dites soi-disant professionnels parce que...
Alors je dis soi-disant professionnels parce que parfois dans les structures on a des personnes qui ne sont absolument pas diplômées. Quand j'étais dans ce foyer là, il y a un veilleur de nuit qui est passé éducateur du jour au lendemain parce qu'on manquait de personnel. Tout est mélangé, les tranches d'âge, les difficultés, on a des enfants qui ont des problématiques médicales mais d'ordre psychique. Il y en a d'autres, ça va être plus comportemental, où là on relève carrément de la PJJ, hein, de la protection judiciaire et de la jeunesse. Donc tout ça génère de la maltraitance.
Et vous devenez en fait le souffre-douleur de vos camarades.
Exactement. On te tape, on peut t'insulter. La nuit, quand le veilleur de nuit est occupé à regarder la télé, on peut très bien rentrer dans ta chambre et parfois même te violer. Moi, le premier d'ailleurs.
Cet abus, c'était celui d'un jeune plus âgé que vous. Hein.
Exactement. C'est que quand on vit en collectivité H24 avec des personnes, allez dire que vous vous êtes fait violer. Et ça, c'est des réalités. Moi, j'ai quand même, dans le foyer où j'ai été, une jeune fille qui s'était quand même pendue au barreau de son lit. Les éducateurs nous faisaient faire, un éducateur en particulier nous faisait faire la chaise quand on faisait des conneries. Ça consiste à se mettre en position chaise contre le mur avec une balle, un dictionnaire sur la tête et une balle de ping-pong. Si elle tombe, en balaye, tu vois. Donc oui, c'est de la maltraitance quotidienne. Un fonctionnement très pénitentiaire parfois. Moi aussi, je me suis mis après à mon tour à taper tout le monde, les profs, les surveillants. Je fuguais sans arrêt. Comme je disais, vivre dans un environnement maltraitant où il y a de la violence te force de toute façon à l'être aussi. Pour te défendre, ne serait-ce que pour te défendre déjà. La grande chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai pas fini SDF. En 2006, c'était 40% de SDF qui sortaient de l'ASE.
L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ça se passe en France, l'histoire de l'IS. D'ailleurs, il l'a raconté dans L'Enfer des foyers, paru chez Flammarion. Alexandra Riguet, vous publiez Enfant en souffrance, la honte, le livre noir de la protection de l'enfance. L'histoire de l'IS n'est pas un cas isolé.
Mais non, c'est vraiment... Il résume tellement de dysfonctionnements que j'ai trouvé dans cette enquête. C'est un enfant qui aurait pu être adopté. C'est un enfant qui était bien dans sa famille, on l'a séparé de sa famille. Pourquoi ? C'est au nom du lien avec une femme qui finalement ne pouvait plus s'occuper d'elle. Ensuite, il s'est retrouvé ballotté, c'est le parcours chaotique, hein. C'est vraiment typique des dysfonctionnements quand les enfants sont ballottés et que déjà ils ont subi enfant, comment peuvent-ils se reconstruire ? Et ensuite, il se retrouve dans un foyer, il ne se sent pas protégé et là, il aurait pu tomber dans la délinquance. Il n'est pas tombé parce qu'il avait cette force formidable, cette intelligence et cet amour enfant qu'il a eu quelque temps. Et voilà. Et donc, vraiment, Liès raconte tellement de graves drames qui se produisent dans le monde opaque de la protection de l'enfance.
Comment est-ce possible dans un pays riche, développé, qui dépense 7,5 milliards d'euros par an pour la protection de l'enfant ?
C'est un monde qu'on n'a jamais regardé, le monde de la protection de l'enfance. C'est un monde fermé, opaque, qui fonctionne en roue libre. Et les associations sont souvent des associations qui prennent des enfants en charge. En fait, elles travaillent, elles s'occupent des enfants en difficulté. Donc, elles sont forcément généreuses. Et ça, c'est un voile. C'est un voile qui empêche de voir. Et derrière ce voile, ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, les conseils généraux qui s'occupent quand même de ces associations sont des fonctionnaires. C'est un monde qui est habitué à travailler en petit milieu feutré et qui ne veut pas qu'on aille voir.
Alors, l'IS, il tenait beaucoup à ce qu'on le précise. Hein. Il a 20 ans maintenant, il s'est reconstruit, il participe à une grande consultation nationale sur la protection de l'enfance sous la houlette de Laurence Rossignol, la secrétaire d'État à la famille. Autour de la table, il y a des ex-enfants de l'aide sociale à l'enfance, il y a des présidents de conseils généraux, des juges pour enfants, des travailleurs sociaux, des associations, des familles. Vous y croyez, ce qui peut sortir d'une consultation de ce type ?
Bien sûr, parce que je pense que la ministre a vraiment considéré que la protection de l'enfance était un angle mort et qu'il fallait changer les choses. Elle sait qu'il n'y a pas de contrôle dans les associations. Elle sait qu'on devrait aller dans les familles d'accueil à l'improviste pour voir ce qui se passe. Elle sait qu'il faut vraiment utiliser mieux l'argent aujourd'hui. Donc oui, je pense, et les conseils généraux qui étaient présents face à la ministre récemment ont conscience que quelque chose doit nationalement être décidé.
Dans les pays riches, on s'intéresse au sort des enfants de ce type, Alexandra Aoula.
Dans les pays riches et dans tout le pays, ces enfants sont souvent vus comme sont souvent marginalisés, discriminés, parfois stigmatisés. Donc l'intérêt, malheureusement, reste secondaire, je dirais.
Eh bien justement, on va y revenir. En tout cas, nous, on y consacre 47 minutes aujourd'hui. Alexandra Riguet et Alexandra Aoula, vous restez avec nous 25 ans après la Convention internationale des droits de l'enfant. Où en est-on ? Appelez-nous surtout.
« 7 milliards de voisins, on est ensemble. »
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, journée internationale des droits de l'enfant. 25 ans après la Convention internationale des droits de l'enfant, quelles avancées pour les enfants et surtout que reste-t-il à faire? Dites-nous ce qui vous scandalise autour de vous si vous sentez concerné par le sujet. C'est très simple, vous nous appelez, mais surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en train de rappeler les voisins et les voisines qui ont laissé des messages et nous discutons bien évidemment avec nos invités, Alessandra Aoula qui est secrétaire générale du BICE, le Bureau international catholique de l'enfance, qui est une ONG qui est d'ailleurs beaucoup œuvrée à la mise en œuvre de cette Convention internationale des droits de l'enfant, et Alexandra Riguet, vous êtes journaliste Enfants en souffrance, la honte, c'est le titre de votre enquête sur l'aide sociale à l'enfance en France et où l'on découvre, enfin les Français sont pas complètement naïfs, ils subodorent que ça se passe pas très bien dans les foyers et dans les familles d'accueil, mais là tout de même on découvre des dysfonctionnements d'ampleur aussi bien économique, de gestion, de supervision politique de ce qui est géré donc par l'État et par les pouvoirs publics en général. Alexandra Riguet, peut-être petit rappel déjà, soyons pédagogiques pour nos auditeurs, dans quel cas les enfants sont retirés de leur famille biologique en France et combien sont-ils?
Alors en fait, il y a en France 300 000 enfants à peu près qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, par l'ASE, aide sociale à l'enfance, à peu près 150 000 qui restent chez eux parce qu'on considère qu'il y a un danger, mais qu'un juge a décidé qu'ils pouvaient encore rester dans leur famille.
Donc ils sont surveillés, suivis.
Le juge dit, il va falloir maintenant mettre en place un suivi à domicile, une aide éducative, et donc un éducateur va se rendre à domicile pour veiller à ce que, voir un petit peu comment ça se passe, aider aussi la famille à s'occuper mieux de son enfant. Mais il se trouve qu'actuellement en France, il y a des endroits où même ces suivis ne sont pas faits pendant un an. Décision d'un juge et l'enfant qui est en danger avéré reste sans surveillance. Donc c'est gravissime. C'est-à-dire qu'on est là à la limite du placement.
L'enfant ne voit personne, aucun éducateur spécialisé pendant un an. Alors que ça a fait l'objet d'une décision de justice.
Tout à fait. Donc ça c'est déjà.
Pourquoi? Parce que les services sont débordés.
Alors ils vous diront que les services sont débordés. Moi je crois qu'il faut encore une fois et j'insiste remettre à plat en plat. Il y a quand même 7 milliards d'euros. C'est le budget par an utilisé pour la protection de l'enfance. Je pense qu'il faut réfléchir autrement à l'utilisation de cet argent. Je pense pas qu'il y ait un problème de moyens. Alors je sais que les travailleurs sociaux vont crier au scandale quand je dis ça, mais je crois qu'il faut vraiment aller voir ce qui se passe dans ces associations. Vous savez, juste, je me suis intéressée avant aux associations de tutelle, les gens, les personnes vulnérables. En fait, ce sont les mêmes associations parfois. Et donc, là aussi, il y avait des problèmes d'utilisation de l'argent un peu douteuse. Donc, c'est les mêmes problèmes. Allons voir ce qui se passe.
À la lumière de tous les experts que vous avez rencontrés, aussi bien des médecins, des psychiatres, des éducateurs spécialisés, des élus locaux, est-ce que vous diriez que les enfants aujourd'hui sont trop facilement placés ou pas?
Je dirais qu'il faut faire des études au cas par cas. Je peux pas dire que les enfants sont trop facilement placés. Je dirais que dans certains cas, ils devraient être placés et que dans d'autres
pour
cas,
leur survie.
Alors l'inverse est valable, c'est-à-dire que parfois on les place alors qu'on devrait les laisser dans leur famille. Je pense que vraiment il faut faire beaucoup plus finement une étude au cas par cas. Mais c'est vrai que le docteur Berger de Saint-Étienne, qui connaît très très bien le sujet, est clair. Il y a beaucoup d'enfants qu'on laisse dans leur famille et qui sont atteints de troubles du comportement parce qu'on les laisse dans un milieu nuisible, nocif, et que le cerveau se dégénère doucement et que malheureusement ces enfants s'éteignent. Et oui, ces enfants-là devraient être sortis de leur milieu familial. Et on ne le fait pas parce que depuis les années 70, tout est fait pour privilégier le lien. Et les travailleurs sociaux. Le lien biologique.
Avec la mère ou le père.
Exactement. Et les travailleurs sociaux vivent. C'est pour ça que les travailleurs sociaux vivent l'adoption comme un échec. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que presque le placement, c'est on a échoué quelque part. On n'a pas réussi à privilégier le lien. Vous voyez, c'est vraiment ancré dans les esprits. C'est un vrai problème. Il faut réfléchir sur cette
notion. Qui décide pour l'enfant quand il est placé? Qui décide et sur quelle base objective?
Le juge, en collaboration avec
le juge des enfants.
Voilà, avec les assistantes sociales, les travailleurs sociaux. C'est un travail d'équipe, mais celui qui décide, c'est quand même le juge.
Mais il y a des mesures scientifiques. Il y a quoi? Comment on décide?
Pas tellement. Alors, par rapport à des pays comme le Québec où les tableaux, Alexandra Aoula le sait très bien, sont très très vraiment scientifiques et techniquement parfaits. En France,
qui permettent d'évaluer qu'un enfant est en danger, qu'il ne se développe pas bien dans sa famille, par exemple, qu'il est traumatisé.
Alors il y a les études psychologiques, il y a quand même des psychiatres, il y a quand même des psychologues, mais parfois, si vous voulez, j'ai étudié ces dossiers de maltraitance, par exemple, dans des foyers où les enfants étaient livrés à eux-mêmes, j'ai pu avoir accès à des dossiers. Le suivi parfois était vraiment inquiétant, c'est-à-dire qu'il y avait des décisions qui étaient aberrantes, des enfants qu'on laissait. Enfin, c'était effrayant ce que j'ai pu voir.
Alessandra Aoula.
Il y a un manque de formation continue des professionnels. En France et dans d'autres pays, nous le voyons peut-être encore plus, même dans d'autres pays, évidemment. Mais les professionnels, les éducateurs, les assistants sociaux, etc., et les juges également, manquent de formation. Donc, cette convention et tout ce qu'elle apportait aussi de cette culture de bien-traitance également, justement, pour prévenir la maltraitance, il faut se former, il faut connaître, et il faut une politique de protection au niveau des institutions, il faut pouvoir détecter les alertes que quand même les enfants donnent.
Alors justement, pour détecter, il faut contrôler. Vous dites dans votre enquête, Alexandra Riguet, quand les enfants sont placés, que ce soit en foyer, que ce soit en famille d'accueil, des familles d'accueil qui sont salariées pour s'occuper de ces enfants-là, vous dites qu'il n'y a quasiment pas de contrôle des pouvoirs publics.
C'est-à-dire que, par exemple, on doit faire des évaluations externes et internes, c'est la loi. Les évaluations externes sont quasiment jamais faites. C'est-à-dire que quelqu'un de l'extérieur doit venir voir. Et quand elles sont faites, l'association peut choisir son prestataire. C'est de vous dire comment ça marche. Et puis, les évaluations internes, alors là, c'est l'auto-évaluation, comme on dit. L'auto-évaluation, inutile de vous dire que certains la font très bien, vraiment très sérieusement, parce qu'ils considèrent que ce dispositif va les aider à s'améliorer. Et d'autres font des tableaux avec des camemberts qui ne servent à rien. Et finalement, pour finir par dire parfois, et le responsable de l'ONES me l'avait dit, Organisation Nationale des Éducateurs Spécialisés, il faut qu'on mette en place un projet d'établissement. C'est la base. Vous voyez le bilan de l'évaluation interne. Donc, il y a vraiment du travail par rapport à ça. Et concernant les familles d'accueil, elles ne sont très rarement contrôlées à l'improviste. Or, on sait très bien qu'un enfant, c'est au moment où les choses peuvent mal se passer, il faut venir à l'improviste. Sinon, c'est facile d'habiller un enfant
correctement.
Mais qu'est-ce
qui se passe réellement, justement, à l'intérieur de ces familles d'accueil et de ces foyers?
Il y a des familles d'accueil formidables, il y a des foyers formidables où le travail est magnifique, où vraiment c'est une abnégation incroyable. Ils font tout pour que des enfants s'épanouissent et s'en sortent. Et puis d'autres où c'est n'importe quoi. Et il y en a
Mais
plein.
Mais c'est quoi ce n'importe quoi?
Eh ben, ce n'importe quoi, c'est dans des foyers des enfants qui vont être livrés à eux-mêmes. C'est des actes de violence sexuelle entre eux. C'est parfois des actes de violence d'éducateurs qui sont très vite étouffés par les conseils généraux qui n'aiment pas bien que ça se sache. Ce sont dans des familles d'accueil des enfants, on a raconté l'histoire, qui parfois sont victimes aussi de maltraitance psychologique. On a eu le cas récemment d'un enfant qui finalement s'est défendu tout seul, parce que comme les enfants comprennent que l'institution ne les défendra pas, ils utilisent le portable. Donc l'enfant avait filmé la situation et un procès avait eu lieu. Et l'aide sociale à l'enfance de la Meuse n'avait même pas autorisé l'enfant à aller à son procès, alors que le procureur de la République avait demandé qu'il soit là, lui avait proposé. Vous voyez, un petit peu, on est face à cette toute puissance de l'ASE qui finalement, au-delà de la décision de justice, prend les décisions comme elle l'entend pour l'enfant, dans le secret total.
En 2009, il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur l'aide sociale à l'enfance, absolument accablant, qui fait aussi état de dysfonctionnements financiers graves, notamment avec des associations qui font de l'argent sur la gestion de ces enfants.
Oui, tout à fait. Alors, la Cour des comptes stipule qu'il y a un contrôle tous les 26 ans. Vous imaginez, on a estimé, la Cour des comptes a estimé que sur 39 établissements, en 5 ans, on en avait contrôlé sur 2682, on avait contrôlé 39. Vous imaginez 39 sur 2682. Oui, vraiment, la Cour des comptes est consciente qu'il faut aller voir ce qui s'y passe et que ça ne se fait pas.
Mais vous publiez quand même une enquête à charge, Alexandra Riguet, sur l'aide sociale à l'enfance. On n'entend aucun haut responsable de l'ASE qui s'exprime pour défendre l'action de l'État pour protéger les enfants.
Alors,
Il s'exprime pas dans votre.
Mais non, mais en fait, il s'exprime. C'est-à-dire qu'il s'exprime, par exemple, à Dunkerque, l'affaire terrible de Dunkerque, où il y a quand même eu un suicide d'un éducateur parce qu'il se trouvait devant des enfants tellement violents que c'était devenu insupportable. Il voulait remettre en cause ce fonctionnement. Et en fait, quand je suis allée voir les responsables du Conseil général du Nord, ils m'ont répondu, oh, mais vous savez, aujourd'hui, on contrôle. Oui, mais avant, expliquez-moi avant. Ils ne veulent pas se remettre en cause. Moi, j'ai quand même entendu un conseiller général me dire, vous savez, nous ne sommes pas l'œil de Moscou dans les établissements. Alors qu'il y a une phrase que tout le monde ne devrait jamais oublier, les présidents des conseils généraux sont responsables des enfants dont ils ont la charge. Vous vous rendez compte, quand on devient président d'un conseil général, ce que ça implique humainement, je suis responsable des enfants dont j'ai la charge au nom de l'ASE.
Dans les campagnes politiques, ça n'apparaît jamais, ça. Jamais un électeur ne vote à la lumière de ce que propose un futur élu local pour la protection de l'enfance.
Vous savez, je pense que ce sont des familles qui sont, ils savent que il y a aussi des familles qui sont très fragiles et ce sont pas des électeurs potentiels pour eux, les enfants. Donc voilà, déjà. Et puis, certains présidents de conseils généraux assument l'idée qu'on s'est plus préoccupé des réseaux numériques et des routes que des enfants pendant très longtemps.
Au-delà de la question humanitaire, oui, on voit bien, comme vous dites, par rapport aux routes notamment, on a le sentiment, quand on lit votre enquête, que ce que nous mangeons dans nos assiettes, ce qui est vendu dans les supermarchés, est bien mieux contrôlé que ces enfants qui sont des êtres humains.
Peut-être parce que ces enfants-là, qui sont placés, sont un petit peu considéré comme des enfants, la mauvaise graine. Donc finalement, la mauvaise graine.
À 5 ans?
C'est un petit peu l'image. On mélange souvent délinquance et foyer. Vous savez, les enfants des foyers, oulala, sont pas des enfants. Ils sont pas des enfants qu'on grandit très bien. Donc on n'a pas forcément, envie de s'intéresser à eux. Alors que vraiment, ces enfants-là, si on pose le regard sur eux, si on les écoute un tout petit peu, ce sont des enfants qui n'attendent que ça et qui sont prêts à faire énormément.
Pays, au-delà de l'aspect humanitaire, humain, droit de l'homme, à l'échelle d'un pays, qu'est-ce qu'on a à y gagner à s'occuper de ces enfants-là ?
C'est d'abord, on se doit de le faire, c'est notre responsabilité.
Et non, mais les médecins vont beaucoup plus loin dans votre enquête. Ils disent, mais c'est toute la débandade ensuite de la délinquance des jeunes, etc., qui découle de ces problèmes-là.
Bien sûr que ce sont des enfants qui deviendront délinquants, ce sont des enfants qui rempliront les hôpitaux psychiatriques, ce sont des enfants qui rempliront les prisons. On a entendu le chiffre.
Hein. Donc des
40% des SDF viennent de l'ASE. Comment?
Des coûts monumentaux pour la société.
Ça coûte très très cher. On estime 7 milliards. Nous, on pense beaucoup plus, puisque on pense que au moins 10 milliards d'euros, si on prend en compte le coût que ces gens, ces enfants qui deviendront adultes seront pour la société, ce sera en effet des milliards d'euros.
On vous rappelle tout de suite le numéro de téléphone et bien sûr, vous avez la parole chez 7 milliards de voisins, journée internationale du droit des enfants aujourd'hui.
Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
Nous accueillons un voisin qui se trouve à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Emmanuel, c'est sympa, on a deux Alexandra aujourd'hui et deux Emmanuel. Vous avez 30 ans, vous êtes vigile à Pointe-Noire. Vous souhaitez vous exprimer par rapport à ce que vous voyez sur les enfants dans les rues à Pointe-Noire.
Oui, donc madame, si nous, en fait, on a les enfants de rue. Donc en permanence dans les rues qui arrivent à commettre des actes, donc qui vont dans des voitures des occidentaux qui travaillent par ici, et pourtant l'État a un partenaire qui travaille ensemble, famille sociale, ces enfants là sont logés là-bas de 6 à 10 ans, alors dans la rue nous voyons des enfants donc autour de jusqu'à 18 et 20 ans qui commettent des actes. Alors,
attendez, ils sont donc accueillis par le SAMU social à Pointe-Noire jusqu'à 10 ans, c'est ce que vous venez de nous dire ?
Oui, oui, jusqu'à 12 ans.
12 ans, ouais. Et après qu'est-ce qui et que se passe-t-il après 12 ans ?
Mais non, après, ça veut dire que ces enfants sont stockés minimum, ça veut dire que les âges, c'est pas ça ? Donc, de 6 à 12 ans, les enfants sont stockés à SAMU social, et par contre, nous trouvons les enfants jusqu'à 18 et 20 ans dans la rue, et l'État, qu'est-ce qu'il fait pour agir, pour arrêter ceux-là, vous voyez, donc c'est pas possible. Ces enfants-là, à cet âge, à 17, 18 ans, sont dans la rue en train de voler, en train de demander, c'est pas possible.
Merci.
L'État, au moins, doit agir avec ses partenaires, je sais pas, peut-être l'UNICEF, l'OMS, l'Union Européenne, et voilà.
Alors, ouais. Les partenaires, les États, Alessandra Aoula. Merci Emmanuel pour ce témoignage.
Oui, merci pour ce témoignage qui malheureusement est vrai aussi pour d'autres pays également. La question des enfants qui maintenant sont même à la deuxième génération parce que certains naissent dans la rue, donc qui vivent, travaillent dans la rue, évidemment sont des enfants qui peuvent tomber dans la délinquance, qui souvent sont victimes de exploitation sexuelle.
À Kinshasa, c'est devenu un vrai problème de sécurité publique, avec des bandes organisées.
Tout à fait, et malheureusement, comme j'ai dit, dans d'autres pays également. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des rafles, souvent, quand il y a des sommets internationaux de la part des États pour que les rues soient propres. Ça, c'est ce qu'on voit. Et c'est donc souvent que l'accueil qui après est fait par des organisations non gouvernementales qui s'occupent de ces enfants. Or, la rue, on sait très bien qu'il donne aussi un sentiment de liberté à l'enfant. Donc, c'est après difficile de récupérer un enfant qui a été quelques mois dans la rue. Déjà, quelques mois suffisent au fait que c'est compliqué après de remettre remettre en route, si vous voulez, cet enfant. Donc, tout ce que nous essayons de faire au BICE, notamment, c'est vraiment prévenir que l'enfant arrive dans la rue. Donc, il y a un soutien, notamment, que nous donnons à Kinshasa, aux familles, dans les cadres de l'éducation aussi, pour éviter qu'on aille dans la rue. Parce qu'après, on sait combien c'est difficile de récupérer ces enfants. Et combien aussi c'est important, de nouveau, je réinsiste, sur la formation, y compris des éducateurs, des rues, des policiers, des vigiles, on attendait qui approchent ces enfants.
Oui, c'est pas qu'une question d'argent, il y a vraiment un problème d'approche et de savoir-faire, là.
Tout à
fait. Si on connaît pas ces métiers-là, de toute façon.
Absolument.
Ça ne sert à rien d'investir. On a le sentiment aujourd'hui, quand même, que des citoyens, comme Emmanuel, comme d'autres qui nous appellent, qui attendent au standard, on va leur donner la parole, mais font de plus en plus le lien aujourd'hui entre la maltraitance et ensuite la délinquance. Et là, tout citoyen est concerné par la délinquance. Donc on ne peut plus fermer les yeux.
Non, il faut pas fermer les yeux, évidemment, et il faut, comme j'ai dit, mettre vraiment l'effort sur l'éducation. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on voit que dès la petite enfance, école primaire, etc., c'est vraiment la clé si on veut, sinon éradiquer, en tout cas diminuer ces fléaux.
Vous nous appelez alors au 33 1 84 22 71 71. Vous êtes nombreux à attendre au standard. On va passer la parole à David qui a 27 ans, qui est étudiant à Dakar, au Sénégal. Bonjour David.
Bonjour Emmanuel.
Je crois que vous êtes un étudiant gabonais en fait au Sénégal. Alors vous êtes très choqué par le phénomène des talibés au Sénégal. Hein. C'est bien cela?
Oui, tout à fait.
Expliquez-nous.
Le phénomène des talibés, c'est en fait les talibés, ce sont des jeunes enfants âgés de 3 ans à 15 ans, tout et plus. Ils sont censés suivre des cours de Coran auprès des maîtres spirituels. Mais malheureusement, des familles n'ayant pas de moyens pour indemniser ces maîtres-là, ils se voient l'obligation de se prendre en charge eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ces enfants-là sont obligés de travailler nuit et jour et de rapporter à leur maître marabout une somme fixée par ce dernier. Si ce n'est pas atteint, c'est certain que ces enfants subissent les violences physiques. Et moi, ça m'écœure de voir que des enfants de cet âge-là sont obligés de travailler. Moi, je suis étudiant, je vais à l'école à 6h du matin. Imaginez-vous, je croise dans la route un enfant de 3 ans qui fait le monde. Moi, ça me dérange. Ouais. Et ce phénomène, aujourd'hui, moi, j'appelle, surtout pour appeler la conscience collective, et surtout les droits internationaux, d'avoir un regard.
Alors, typiquement, le Sénégal, c'est un débat, ça fait des années qu'il y a ce débat sur ces enfants talibés qui sont envoyés de force par leur marabout pour mendier, qui était une pratique ancienne, mais qui a été qui n'était pas condamnable au départ, mais qui a été largement dévoyée culturellement. La loi interdit l'organisation de la mendicité depuis 2005. Elle n'est pas appliquée. Il y a de gros débats politiques sur le sujet, Alessandra Aoula.
Tout à fait. De nouveau, ce n'est pas que le Sénégal. Nous, on le voit au Mali également et dans d'autres pays aussi. De nouveau, c'est la responsabilité de l'État qui, en ratifiant la convention, en ayant des lois nationales, doit garantir un accès à l'éducation. Je réinsiste de nouveau sur l'éducation.
Mais comment vous discutez avec ces États? Comment vous faites du plaidoyer, vous, en tant qu'ONG?
Alors, en tant qu'ONG,
sur un problème comme celui-ci.
Évidemment, en tant qu'ONG, les États sont rappelés, en fait, à ce que eux-mêmes ont librement consenti en ratifiant l'instrument qui est la convention. Parce que personne ne peut les obliger, les pays, à ratifier un instrument.
Mais là, c'est le cas du Sénégal.
Mais le Sénégal l'a fait de son propre gré. Oui. Donc, c'est qui est encore plus contradictoire, si vous voulez, parce qu'on ratifie volontairement cet instrument. Donc,
et on constate un énervement croissant des citoyens qui, alors là, pour le coup, la maltraitance des enfants, c'est ce qu'ils voient dans la rue tous les jours. Là. Le phénomène des talibés, c'est la partie émergée de l'iceberg.
Qu'on voit absolument. Donc c'est là aussi, donc nous en tant qu'ONG, c'est avec les autorités publiques, à travers les comités des droits de l'enfant, que toutes ces questions sont rappelées. Alors évidemment, les graves problèmes de la Convention des droits de l'enfant et des autres aussi traités des droits de l'homme, c'est qu'il n'y a pas une Cour internationale des droits de l'homme. Alors nous saluons et nous sommes vraiment, ça c'était une avancée extraordinaire, les tribunaux pénaux internationaux de la Haye, avec toutes les lenteurs et tout ce qu'on veut, mais c'était un moment historique vraiment de la création de ces tribunaux, mais nous n'avons pas encore aujourd'hui une Cour des droits de l'homme. Donc tant que disons c'est juste des sanctions entre guillemets, ou c'est un rappel moral ou éthique qui est fait par des instances et par d'ONG au pays, évidemment on n'avancera
pas jusqu'au bout, parce que il faut, et on se bat, et avec des experts en droits de l'homme, c'est quelque chose qui revient assez couramment sur la table, et si aujourd'hui on peut plaider vraiment pour quelque chose dans le 25e de la Convention, c'est pour une Cour internationale des droits de l'homme.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à une enseignante à la retraite à Conakry, en Guinée. Bonjour Kadiata, vous êtes la bienvenue.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Je voudrais dire qu'en Guinée, vraiment, l'État n'a pas prévu de lieu d'encadrement pour les enfants de 2 à 6 ans, parce que les garderies, il n'y a pas de garderie par l'État, il n'y a pas de jardin d'enfants public dans les communes ou dans les préfectures. Donc on rencontre les enfants de 2 à 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans les carrefours, dans les coins de rue, en train de jouer tout seul. Les parents sont obligés de laisser les enfants avec les petites sœurs, les grandes sœurs ou les grands frères, et elles s'activent à chercher le quotidien. Alors ça, c'est monnaie courante de voir les enfants se gérer ensemble dans les rues à Conakry.
Nous avons un même cas en Inde, en fait, où nous, par exemple, nous soutenons une ONG locale qui, face à ces problèmes où les mamans étaient obligées d'amener leurs petits enfants, bébés, dans les soirées où elles travaillaient, donc en les exposant à de la pollution, à des bruits, elles étaient attachées à leur mère toute la journée. On a, avec cette ONG Aina Trust en Inde, aidé justement à avoir des garderies, mais aussi à former des assistantes maternelles. Parce que de nouveau, quand elles se retrouvent avec ses enfants, elles en faisaient quoi. Et donc, ce qui a permis effectivement à ces mamans de pouvoir aller travailler dans des conditions un peu plus dignes, et surtout à ses enfants, de commencer dès la petite, voilà, dès qu'ils étaient tout bébés, à être dans un cadre, dans un environnement bien traitant, justement.
Kadiata, vous qui êtes institutrice à la retraite, vous avez 74 ans, je vois ça sur mon écran. Bravo, parce que vous êtes rudement alerte au téléphone. Vous avez l'impression que ce phénomène s'est aggravé à Conakry par rapport aux années où vous étiez enseignante?
Oh là là, c'est différent. Là, parce que moi, les enfants allaient à l'école, les écoles publiques, il n'y avait pas tellement d'enfants, la population était moins nombreuse, mais vraiment presque tout le monde était scolarisé.
Oui, mais entre 4 et 6 ans, entre 4 et 6 ans, il y a 20 ans, les enfants n'étaient pas plus scolarisés, au contraire.
À ce moment, vous avez une classe de CP1 avec 60 enfants, 70 enfants avec un encadrement correct. Mais maintenant, les enfants, parce que d'abord, il faut acheter des fournitures, il faut acheter beaucoup de matériel pour que l'enfant aille à l'école.
Mais les enfants très jeunes qui n'étaient pas à l'école il y a 20 ans étaient davantage avec leur maman, avec leur famille.
Parfois, à 8, à 9 ans, 10 ans, vous les voyez avec le plateau en train de tourner dans le marché, en train d'aider les parents à vendre les condiments, au lieu d'être à la maison ou ailleurs, ceux qui pensent garder les enfants tout près. Mais vous les rencontrez dans les marchés avec les plateaux de condiments.
Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage, Kadiata. Il y a l'importance de la pauvreté a contribué à accroître le phénomène de la maltraitance des enfants aujourd'hui.
La pauvreté, évidemment, c'est un facteur aggravant parce qu'il y a des conditions difficiles d'accès à l'éducation, à la santé, au logement. Mais je tiens à souligner que des phénomènes comme le maltraitance, l'abus sexuel, ça se passe dans tous les milieux sociaux et partout, que ce soit dans des classes aisées, dans des situations de pauvreté, etc. Il n'y a pas des données qui disent c'est beaucoup plus dans des situations de pauvreté. Non, je dirais que ça s'équivaut. Alors évidemment, probablement dans des situations de milieu aisé, ça reste encore plus tabou le phénomène. Ce n'est pas vraiment la situation économique qui fait qu'il y a plus ou moins.
Justement. Retour à la France avec vous, Alexandra Riguet, en quelques mots, parce qu'il nous reste peu de temps, on est à la fin de l'émission. La maltraitance des enfants. institutionnel que vous décrivez, mais à l'origine n'est pas forcément lié d'ailleurs à des problèmes économiques dans les familles.
Ben, on place pas un enfant, pour moi, parce que la famille est pauvre. Ça, c'est affreux de s'imaginer
ça. C'est ce que disent certaines organisations.
Oui, je sais bien. Et alors, ça se fait parfois, parce que malheureusement, les décisions sont pas bien prises. Pour moi, c'est pas du tout. Mais c'est affreux de se dire ça. Pas parce qu'une famille est pauvre qu'elle peut pas s'occuper de son enfant, mais ça n'a rien à voir. Non, simplement, parfois, il y a des familles qui sont dans un tel état de détresse qu'elles tombent ou dans le trouble psychiatrique ou dans un tel sentiment d'incapacité de par rapport à l'enfant que l'enfant est placé pour ces raisons-là, mais pas parce que la famille est pauvre. Voilà.
Je voudrais que nous accueillions un dernier témoignage. Rachel est à Libreville au Gabon. Bonjour Rachel.
Bonjour Emmanuel.
Il nous reste très peu de temps, vous avez la parole.
Ok, en fait nous faisons de l'accompagnement des enfants en crise et ici notamment je voudrais parler des enfants issus de traite et qui se retrouvent dans certaines familles de manière clandestine.
Des enfants domestiques.
Voilà, des enfants domestiques. Donc en fait les parents ou les adultes, n'est-ce pas, profitent de ce phénomène pour s'enrichir, mais ces enfants vraiment se retrouvent complètement diminués et même chosifiés. Alors nous travaillons à leur redonner de la valeur et à rebâtir leur homme intérieur, parce que nous avons compris qu'un enfant rebâti de l'intérieur, qui reconnaît qu'au-delà de ce qu'il a vécu, il a un potentiel qu'il peut exprimer et se retrouver complètement guéri de l'intérieur, au finish, il redonne. N'est-ce pas? Il retrouve en lui la capacité de donner le meilleur de lui-même. Et souvent, il retourne à l'école, n'est-ce pas? Et quelquefois, ils font de l'apprentissage et finissent par réussir. Et quand il est possible, on les renvoie dans leur famille.
Merci pour ce témoignage qui nous donne de l'espoir. Hein, parce que quand on voit la mobilisation des citoyens, il reste maintenant effectivement à mobiliser davantage les pouvoirs publics, mais les enfants parviennent à se reconstruire. C'est ce qu'on appelle la résilience. Pas toujours, hein, malheureusement. Merci à vous, Alexandra Oula, secrétaire générale du BICE, le Bureau international catholique de l'enfance. Et Alexandra Riguet, il faut vous lire. Vous êtes journaliste et vous publiez Enfants en souffrance, la honte chez Fayard avec Bernard Laine. On se retrouve demain pour parler d'éducation. La télé est-elle toxique à la réussite scolaire?